Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
C'est pas du tout ce qui a été fait pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très créatif de base, donc j'ai décidé de tout laisser tomber et de me lancer dans des études de marketing. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai découvert l'univers des réseaux sociaux. Ça fait que finalement, on arrive à attirer des opportunités qui sont des fois hors du commun, comme par exemple le TED Talk que j'ai fait en octobre dernier, qui pour moi faisait partie de ma to-do list des choses absolument à faire avant de mourir. Donc ça, j'ai pu le cocher.
C'est coché maintenant.
voilà, exact. Mon prochain objectif ultime, ce serait vraiment de pouvoir revenir au Maroc.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Sarah Weldiri, entrepreneur, consultante, conférencière et TED speaker, son univers de prédilection, les réseaux sociaux. Sarah Weldiri, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir.
Tout le plaisir est pour moi. Sarah, alors une carrière assez spécifique, comment vous vous êtes retrouvée dans l'univers des réseaux sociaux? Est-ce que ça a toujours été un univers qui vous passionne?
Alors, c'est une excellente question et la réponse, c'est que pas du tout. moi, de base, j'ai fait des études d'ingénierie, donc je n'étais pas du tout prédestinée à finir dans les réseaux sociaux. Comme on le sait chez nous, c'est ça, on doit toujours être soit docteur, ingénieur ou quelque chose comme ça. C'est ça, j'ai commencé avec ça, mais c'est pas du tout ce qui a été fait pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très créatif de base, donc j'ai décidé de tout laisser tomber et de me lancer dans des études de marketing. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai découvert l'univers des réseaux sociaux. Et je regrette pas du tout mon choix parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse dans ce que je fais.
Et ça, c'est important.
Oui.
Aimer ce qu'on fait, c'est vraiment la base. Sarah Weldiri, vos premiers pas dans l'univers professionnel, vous avez fait quoi sur le terrain?
Oui, alors j'ai commencé tout en bas de l'échelle, pour être honnête. Il faut savoir que le monde des réseaux sociaux, ça se mérite dans un sens, parce que quand on commence là-dedans, c'est vraiment le bas de l'échelle. Donc, on commence en tant que souvent créateur de contenu. Donc, moi, j'ai travaillé en agence pendant 6 ans. Et c'est vraiment en agence que j'ai réussi à monter tous les échelons, en fait. J'ai commencé créatrice de contenu. Après ça, je suis passée à stratège digital. Donc là, à ce moment-là, c'est moi qui faisais les stratégies, les campagnes d'influence, etc. Et finalement, j'ai fini social media manager, donc gestionnaire de médias sociaux. Ça, c'est le plus haut grade, entre guillemets, dans cette industrie-là. Et j'ai fini par travailler pour le Cirque du Soleil, ici à Montréal.
D'accord.
Et c'était vraiment un emploi magnifique que j'ai adoré. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à mon compte parce que vu que j'ai appris tout ça et que j'ai eu toutes ces connaissances-là, je me suis dit que j'allais découvrir et prendre un nouveau risque et me lancer à mon compte.
Ça, c'est une très bonne initiative, finalement, l'entrepreneuriat. Des fois, voilà, il y a des gens... qu'ils font directement en premier lieu, c'est-à-dire ils n'ont pas d'expérience dans le salariat ou en tant que freelance, ils se lancent directement. Oui. Et il y en a d'autres qui voilà, passent un peu par le salariat pour après switcher vers l'entrepreneuriat. Vous êtes restée combien de temps avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, Sarah?
Oui, alors effectivement, moi, j'ai pas tout de suite considéré l'entrepreneuriat parce que ça me faisait un peu peur, il faut être honnête. Pourtant, je suis quelqu'un qui a confiance en moi et tout, c'est pas ça le problème, c'est juste que financièrement, des fois, on n'a pas la stabilité qu'on souhaiterait, etc. C'est ça, j'ai commencé en tant que salariée, j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai fait différentes carrières, j'ai fait différents jobs. J'ai travaillé essentiellement à Montréal, donc au Canada. Et donc, c'est ça, j'ai travaillé pendant très longtemps pour acquérir toutes ces connaissances. Et puis, à un moment donné, je pense que j'avais fait un peu le tour et que c'est à ce moment-là que j'ai décidé, un peu après la pandémie, la pandémie mondiale du Covid, de me lancer. C'est cette idée-là qui a émergé dans ma tête de pouvoir travailler pour moi et de le faire pour pouvoir aussi passer plus de temps avec ma famille parce qu'ils sont loin, il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont en France et tout. Donc des fois, c'est un peu difficile de se voir plus souvent et l'entrepreneuriat, ça permet ça.
Aussi, vous avez parlé du Covid. Justement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont eu cette prise de conscience à cette époque et qui se sont lancés à leur propre compte parce que, justement, la notion du salariat qu'on avait avant n'était plus la même, en fait. Les gens ont perdu leur boulot. Donc, cette notion de stabilité qu'offrait un petit peu le salariat, il y avait un petit peu d'ombre dessus. C'était plus aussi clair qu'avant. Et je pense que beaucoup de gens aussi ont dû rebondir d'une façon ou d'une autre. Donc, s'ils avaient une idée ou une envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se sont dit, c'est YOLO, c'est le bon moment.
Effectivement, non, c'est sûr. Et je pense que ça a aidé quand même beaucoup de monde, même à revoir les cultures du travail, par exemple.
C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé finalement après post-Covid. L'entrepreneuriat, donc, Sarah, vous vous êtes lancée. Mm-hmm. Vous faites quoi ? Rapprochez-nous un petit peu de cette aventure entrepreneuriale. L'envie est là, vous décidez de vous lancer. Le salariat, c'est plus pour moi. Vous faites quoi ?
Oui, alors je fais quoi ? Alors, ça, c'est une excellente question parce que même moi, aujourd'hui, je ne saurais pas exactement ce vers quoi je veux tendre parce qu'il y a tellement de choses qui me passionnent que moi, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Ouais. Mais je dirais qu'essentiellement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup de consultations pour les entreprises qui souhaitent justement améliorer leur communication sur les réseaux sociaux et ça de façon inclusive parce que c'est une notion aussi qui est très importante et qui fait partie de mes valeurs personnelles. Et dans un deuxième temps, j'accompagne les entrepreneurs justement gérer leurs réseaux sociaux, à se démarquer sur justement avoir plus de visibilité en ligne parce que c'est grâce à ça qu'on obtient plus d'opportunités. Comme par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire une interview. C'est typiquement le genre d'opportunité qu'on peut décrocher grâce aux réseaux sociaux.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je vous ai trouvé sur LinkedIn. Donc
exact.
Voilà, et on a parlé sur LinkedIn. Sarah, donc vous avez plusieurs casquettes, plusieurs missions, mais au final, qui d'une façon ou d'une autre nous ramène au même point, au même univers. Est-ce que vous arrivez à équilibrer entre toutes ces missions ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de parler d'équilibre parce que voilà, ça ramène encore une fois au même point?
Franchement, c'est très difficile à définir l'équilibre pour moi, je trouve, parce que moi, j'ai toujours été habituée à travailler énormément parce que quand on se forme en agence, on est habitué à des deadlines très serrées, des gros projets qui viennent tout le temps chambouler notre agenda. Donc, j'avoue que moi, de mon côté équilibre, je le trouve un peu à ma façon, c'est-à-dire que des fois, je vais avoir des gros rushs de travail, des fois, je vais passer des mois sans travailler, mais en me reposant, on va dire ça comme ça. Donc, mon équilibre, je le trouve vraiment à travers mes projets, je dirais. Des fois, il y a des moments où je vais faire des projets plus intenses, des projets un peu moins intenses. Tout récemment, je viens de finir la production et la réalisation de mon premier podcast qui sera sur les femmes arabes, justement, nord-africaines et du Moyen-Orient. Ça, c'était un gros projet que je viens de terminer. Donc là, je rentre dans une période un peu plus tranquille, on va dire. Mais c'est ça. En fait, oui, tout à l'heure, je parlais de consulting et d'accompagnement, mais j'ai tellement de choses aussi que j'aimerais créer que finalement, je fais aussi tout ce genre de projets-là qui sont connexes, on va dire, aux réseaux sociaux.
C'est vrai. Et c'est ça, en fait, c'est que finalement, tout nous mène au même point, à cette passion ou cet amour pour l'univers des réseaux sociaux. Et en tout cas, la passion enlaçant et le fait de vouloir faire beaucoup de choses aussi, ça prouve encore une fois que vous êtes à l'aise, vous êtes là où vous êtes censé être. Au final, sur le plan professionnel, Sarah, vous êtes aussi conférencière et TED Speaker. Rapprochez-nous un peu de ces missions pour les personnes qui nous écoutent.
Oui. Alors ça, c'est vraiment la chance, et le destin, je sais pas trop. Mais moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire ce genre de choses, honnêtement, parce que de base, je suis quelqu'un de très timide et quand même introvertie. Et en fait, à force de prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Tout à l'heure, je parlais d'inclusivité, mais je parle aussi de santé mentale, de l'égalité des sexes, enfin de plein de thématiques qui me tiennent à cœur. Et ça fait que finalement, on arrive à attirer des opportunités qui sont des fois hors du commun, comme par exemple le TED Talk que j'ai fait en octobre dernier, qui pour moi faisait partie de ma to-do list des choses absolument à faire avant de mourir. Donc ça, j'ai pu le cocher.
C'est coché maintenant.
Voilà, exact. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment pas choisi, mais c'est un exercice que je commence et je continue à faire et dans lequel je suis de plus en plus à l'aise et que j'aime beaucoup, pas par ego ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça permet d'impacter en fait. Et moi, j'ai découvert au fil des années que mon envie, au-delà de tout, c'était vraiment d'avoir un impact sur ma communauté, sur les personnes qui me ressemblent finalement. Et donc c'est cet impact-là que je veux avoir et c'est ce que je fais à travers mes conférences et à travers aussi mes réseaux sociaux.
Et en parlant de communauté, Sarah, est-ce que vous avez des retours? Vous recevez des messages de la part des gens qui vous suivent et qui donnent leur avis ou qui partagent leurs ressentis par rapport à votre contenu?
Oui, bien sûr. Honnêtement, j'en reçois vraiment, je dirais, de façon quasi journalière. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui me motive à continuer, pour être honnête, parce que des fois, ça peut être très lourd mentalement de créer du contenu, d'être présent H24 sur les réseaux sociaux. Mais quand on reçoit justement des messages de soutien, des commentaires qui nous font dire que notre travail est vraiment à la hauteur, que ce qu'on partage, c'est vraiment de la valeur. Puis moi, je reçois énormément de messages aussi de femmes marocaines, de femmes nord-africaines qui se disent être représentées par le travail que je fais sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ça qui m'allume quand j'en parle. J'ai vraiment des étoiles dans les yeux parce que justement, moi, j'ai grandi avec tellement peu de représentation qu'aujourd'hui, c'est comme si je me dois de changer cette chose-là. Et ça, c'est ça qui me fait extrêmement plaisir quand je reçois des messages sur LinkedIn de jeunes femmes aussi qui se disent vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont vu mon vécu et que ça les motive et que ça les conforte dans l'idée qu'elles font les bons choix.
Donc, c'est vrai que ça n'a pas de prix.
Oui, c'est très motivant.
Ça n'a pas de prix finalement, voir l'impact et voir le fruit de nos efforts aussi. C'est... ça n'a pas de prix, c'est hyper important. Est-ce que vous recevez des fois des messages qui ne sont pas sympas? Voilà, parce que les réseaux sociaux, on le sait, des fois, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a aussi un petit peu le dark side. Est-ce que vous l'avez connu, ce dark side? Est-ce que vous avez reçu des fois des messages qui ne sont pas... qu'on aurait pu garder pour soi, pour dire ça gentiment.
Non, mais ça, c'est vraiment, c'est terrible, honnêtement. Surtout, je pense qu'en tant que femme, on en reçoit plus que les hommes, honnêtement, parce qu'on se fait très critiquer souvent sur le physique, sur la façon de se tenir, de s'habiller, etc. Donc oui, j'en reçois beaucoup. Après, j'avoue que LinkedIn, c'est la plateforme où je suis le plus présente. Vu que c'est un réseau professionnel et que ton nom est littéralement écrit à côté de ta photo, les gens stressent un peu, je dirais, ils osent un peu moins. Après, c'est sûr que sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, là, par contre, les gens s'en donnent à cœur joie. Ils se cachent même plus. Et puis, des fois, s'ils sentent que tu parles de sujets parfois un peu tabous, alors là, vraiment, on a la police d'Internet qui vient nous chercher et qui vient nous remettre à notre place, entre guillemets. Donc oui, c'est terrible.
Et on fait comment pour ne pas les prendre en compte?
Alors ça...
Ou ça nous atteint? Est-ce que ça nous atteint finalement d'une façon ou d'une autre?
Oui, honnêtement, je dirais que c'est un apprentissage. Moi, au début, d'ailleurs, je me souviens de mon premier bad buzz, c'était vraiment terrible. J'ai passé 24 heures dans un état de stress pas possible. J'ai appelé tous mes proches en panique parce que justement, des fois, c'est dur de réussir à gérer toute cette attention-là. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne peut pas contrôler le ressenti des autres face à nos propos. Donc nous, ce qu'on peut contrôler, c'est vraiment ce qu'on dit, le message qu'on veut faire passer. Mais après, tout le reste, c'est plus vraiment entre nos mains. Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment de s'attendre à recevoir ce genre de message quand on a une présence sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, il ne faut pas trop donner de l'importance non plus. Moi, ce que je fais à la place, c'est que j'ai un dossier de commentaires positifs sur mon ordinateur que je relis à chaque fois que j'ai un coup de mou.
C'est une excellente idée parce que voilà, finalement, les gens, après, quand c'est une critique constructive, il n'y a pas de souci, mais quand c'est de la méchanceté gratuite, là, franchement, voilà, si on n'aime pas un contenu, peu importe d'ailleurs le genre de contenu, on ne le regarde pas et puis c'est tout. On ne va pas attaquer les gens et voilà, c'est pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a des gens qui arrivent à gérer ça et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à gérer. Donc, il faut vraiment prendre en considération ça et prendre en considération l'impact que ça peut avoir sur le plan psychologique. Il y a des gens qui sont fragiles, vulnérables. Donc, il ne faut pas faire ça. Oui. Si on n'aime pas quelque chose, soit on le dit poliment, soit on ne le regarde pas. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de...
Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de débat, c'est sûr. Et en même temps, souvent, c'est ce genre de personnes-là aussi qui n'oseraient jamais faire ça dans la vraie vie. Ça aussi, faut se le dire. C'est les réseaux sociaux, les gens se pensent libres de faire ce qu'ils veulent, alors que dans la vraie vie, personne ne s'arrêterait dans la rue pour te dire « ce que tu as écrit, c'est vraiment nul » ou je ne sais pas quoi. Donc,
Tu t'es pas lavé les cheveux. On peut pas dire ça.
C'est ça.
Ça aussi, ça va bien. Ça, c'est très bizarre finalement. Si quelqu'un me dit, moi, ça va me donner envie de rigoler dans la rue comme ça, c'est plus bizarre.
Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est ça. Des fois.
Et si vous deviez partager avec nous cette fois votre plus beau souvenir professionnel, si je vous demandais, c'est quoi, voilà, le moment le plus marquant ou un moment que vous avez vécu comme une consécration ou qui vous a rendu le plus fier, vous pensez à quoi en premier?
Je dirais que l'un des plus gros moments, ce serait le TED Talk, justement, parce que c'était assez spécial, je dirais, parce que c'était un moment où je devais parler de quelque chose, d'un sujet où je suis très vulnérable, donc du décès de mon papa. Et c'était en plus le jour de mon anniversaire. Je suis émue juste d'en parler en ce moment. Et donc c'est ça, de le faire devant 300 personnes et de réussir à garder justement son sérieux entre guillemets et en même temps réussir à impacter à travers son discours, c'était complètement un travail à faire sur moi. Donc ça, c'est, je dirais, un de mes plus gros souvenirs. Et puis le deuxième, ce serait de dire que j'ai réussi à avoir une carrière justement au Canada, parce que quand j'étais au Maroc à mes 18 ans, jamais je m'imaginerais que je finirais au Canada et que j'arriverais à avoir d'aussi gros postes et d'aussi grosses responsabilités. Donc oui, ça c'est mes deux souvenirs, je dirais, de carrière qui me marquent beaucoup.
Et votre entourage, cette fois sur une note un peu, on va dire, personnelle, est-ce qu'il y a eu... Un rôle qu'a joué justement votre entourage? Est-ce qu'il y a eu une quelconque influence ou un impact, voilà, par rapport à votre choix de carrière, votre orientation?
Oui, bien sûr, la famille, c'est surtout chez nous, c'est ce qui influence le plus, je dirais, que ce soit dans le positif ou dans le négatif parfois. Mais c'est sûr que moi, au début de ma carrière, mes parents étaient quand même assez inquiets parce que mon parcours scolaire n'était pas excellent à cause de... J'ai découvert des années plus tard que j'avais un trouble de l'attention. Et donc, mes parents étaient quand même assez inquiets à ce niveau-là. Ils voulaient vraiment que j'aie une carrière solide, donc que je sois ingénieure, que je travaille dans le privé, entre guillemets, comme on dit chez nous au Maroc. Et puis finalement, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas du tout ce que j'ai écouté. Et j'ai eu raison de ne pas le faire, même si au début, ils n'étaient pas très contents. Ils n'étaient pas du tout... à l'aise avec cette idée-là que j'aille aussi loin, que je travaille dans la communication, le digital, parce qu'à l'époque, c'est vrai que je parle de 2012-2014, le digital, ça n'existait même pas encore. Ouais. Il y avait juste Facebook, je crois.
Ouais, c'est vrai, c'était donc, juste, c'était un petit peu, voilà, c'était pas aussi important que maintenant, bien sûr.
Exact, donc quand j'ai essayé d'expliquer ça à mon père, il me disait « Mais comment ça, tu vas faire de la publicité sur Internet? Je comprends pas. » Genre lui, il était vraiment... Enfin, pour lui, ça n'existait pas tout ça. Et donc oui, c'est ça, au début, ça a été assez compliqué. Mais aujourd'hui, je dirais que quand j'ai décidé d'annoncer que j'allais quitter mon poste au Cirque du Soleil, au début, ça a été un peu... décevant pour eux, je dirais. Mais après, j'ai reçu que du soutien et vraiment de... Oui, du soutien, je dirais, de la part de ma famille pour continuer cette aventure d'entrepreneuriat.
Parce qu'au final, c'est ça qui importe. Au début, ils peuvent être un peu réticents, ils peuvent avoir un petit peu des doutes parce que, voilà, dans le fond, ils veulent juste notre bien. Des fois, ça peut être d'une façon un peu, on va dire maladroite, mais vraiment le but, le fond, c'est vraiment qu'on soit bien, qu'on ait une stabilité, qu'on n'ait pas de problème de soucis d'argent, qu'on ait un poste important pour avoir justement tous les avantages qui vont avec. Mais une fois qu'ils voient que, voilà, on a choisi autre chose, mais qu'on est bien, on est épanoui, il y a de l'impact, il y a un résultat, etc. Je pense que c'est bon. Après, ils se disent, finalement, c'est le plus important.
Moi, dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, je pense, ou très peu. Donc, c'est sûr qu'au début, ça fait peur. Mais c'est ça, quand ils voient que ça commence à déboucher sur des belles opportunités et qu'on devient indépendant financièrement, là, on se dit, OK, on a eu raison de lui faire confiance.
Exactement, et ça les rassure et tout le monde est content. Sarah, c'est quoi le prochain objectif? Est-ce que vous avez un rêve plutôt à concrétiser, un objectif pro? Voilà, le next step pour vous professionnellement.
Oui, alors des rêves, j'en ai beaucoup, je dirais. Mais je pense que mon prochain objectif ultime, ce serait vraiment de pouvoir revenir au Maroc et d'essayer justement de transmettre, même si bon, c'est très, très ambitieux, mais d'essayer quelque part de transmettre ou de donner tout ce que j'ai pu apprendre justement au Canada et de l'appliquer au Maroc avec pourquoi pas ouvrir un espace pour de la création de contenu ou une entreprise, une agence, peu importe, quelque chose, parce que ça a toujours fait partie de mes objectifs ultimes de pouvoir revenir et de pouvoir contribuer justement à la société marocaine. Donc ça, ce serait vraiment le next step et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé ce podcast-là, ça c'est la première brique de, de l'échafaudage. Et donc j'ai vraiment hâte que ça se concrétise. D'ailleurs, je rentre cet été à Tanger pour pouvoir filmer la saison 2 au Maroc. Donc j'ai vraiment super hâte.
Oui. Bah, excellent. Marhaba bik.
Merci.
Et c'est une très bonne chose justement de, voilà, de vouloir renvoyer l'ascenseur, en fait, en quelque sorte, et partager son savoir, c'est toujours une très bonne initiative et ça va permettre à beaucoup d'autres personnes aussi d'avoir un espace un peu safe où ils peuvent justement exprimer leurs compétences et leurs talents, etc. Parce que des fois, il y a des gens qui ont juste besoin d'un tout petit coup de pouce, en fait. Il y a tout, mais ils ont juste besoin d'une main tendue et voilà, ça déclenche tout.
Définitivement, et moi je le vois à chaque fois que je rentre, je le vois chez mes petites cousines, la détermination qu'elles ont et l'envie, et tout est là en fait, vraiment dans la nouvelle génération que je vois. Ils ont envie de bien faire les choses et tout, mais des fois ils savent juste pas comment, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Et donc c'est ça que j'aimerais venir apporter pour les aider à atteindre justement leur objectif d'ouvrir leur propre entreprise finalement.
Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Sarah, cette fois le mot de la fin. Un petit conseil ou un message pour les personnes qui nous écoutent, alors les plus jeunes peut-être, qui ont envie de se lancer dans, voilà, dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, mais qui ont un petit peu peur, qui ont des idées, etc., mais qui sont un petit peu réticents par rapport peut-être des fois au regard des autres, parce que ça peut être un peu lourd des fois pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes qui nous écoutent, question de les motiver ou de les inspirer, pourquoi pas?
Ah oui, alors ça c'est vraiment... ça c'est sûr que c'est de même des choses que moi j'aurais aimé entendre, c'est que déjà ta valeur, elle réside pas dans le regard des autres. C'est vraiment super important parce que souvent quand on est à l'école ou même nos proches, des fois on se fait dire que on ne peut pas atteindre certains objectifs, qu'on ne peut pas réaliser certains rêves, alors que nous, tant qu'on y croit, c'est le plus important. Et des fois, il faut juste ne pas écouter ce qui se passe autour. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre des risques. Honnêtement, prendre des risques à fond, parce que c'est la seule façon que tu peux réussir à atteindre certains objectifs. Parce que quand on reste trop dans une zone de confort, c'est là qu'on ne grandit pas. Et alors que quand on prend des risques, c'est tout l'inverse qui se passe en fait. On commence à grandir, à apprendre, à atteindre de nouveaux milestones. Et moi, c'est ça que je retiens de mon année d'entrepreneuriat en tout cas.
Ben, c'est sur ce très beau conseil que se referme notre discussion, notre échange. Merci beaucoup Sarah Waldiri d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé votre histoire. C'était vraiment un plaisir et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. C'était vraiment ultra enrichissant comme conversation et j'espère à bientôt.
À très bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.